Le rapport de force avait un peu basculé et il est obligé de constater que quelques mois plus tard, à la fin de l'année dernière, eh bien, les campeurs d'Occupy Wall Street avaient été évacués 2 mois après leur installation, qu'hormis quelques groupes résiduels ici et là, animés par des militants chevronnés, le mouvement Occupy Wall Street s'était désagrégé, que la tempête médiatique qui s'était engouffré dans les tentes de Zuccotti Park était reparti souffler ailleurs. Et donc il se dit, voilà, ça a donné quoi tout ça? Et il fait une comparaison avec les acquis d'un autre mouvement né à la base, mais lui carrément à droite, qui est le mouvement du Tea Party. Et il dit, ben, le Tea Party, eux, ils ont obtenu pas mal de choses. Ils sont maintenant une force dominante à l'intérieur du parti républicain. Grâce à leur action aux élections de la mi-mandat en novembre 2010, le parti républicain est redevenu majoritaire à la Chambre des représentants. Il a conquis plusieurs centaines de sièges dans les législatures d'État. Et il avait même réussi à obtenir que son candidat, sa figure de proue, Paul Ryan, devienne candidat à la vice-présidence des États-Unis. Et donc il dit, quand on constate ce destin contrasté d'un mouvement de base né à gauche, Occupy Wall Street, et d'un mouvement de base né à droite, le Tea Party, on est obligé d'admettre que les uns ont plutôt pas réussi et les autres ont
Le Tea
plutôt.
Party à droite, mais très très
Voilà.
populaire.
Très
C'est
populaire.
l'Amérique profonde.
C'est l'Amérique profonde, enfin profonde, mais pas uniquement populaire, c'est quand même des classes moyennes et c'est aussi beaucoup de retraités, ce qui n'est pas exactement la sociologie de Occupy Wall Street. Mais il dit, ce qui est intéressant, quand on voit maintenant tout le discours qui se développe à propos d'Occupy Wall Street aux États-Unis, c'est qu'il y a des tas de livres qui sortent et les livres se posent la question de savoir pourquoi le mouvement a remporté un tel succès. Et il dit, ben, c'est la question inverse qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi il a échoué quant à ses objectifs. Et alors, il voit plusieurs raisons. Et il dit que la principale raison, c'est que Occupy Wall Street, c'est pour ça qu'on a pris un peu le titre, un mouvement tombé amoureux de lui-même, est devenu très très intéressé par ses modalités d'action, par la manière dont il élaborait des revendications, beaucoup plus que par l'efficacité de ces revendications et la façon dont elles étaient traduites dans la vie politique. Or, il explique que bâtir une culture de lutte démocratique est certes utile pour les militants, mais que ça n'est qu'un point de départ. Or, Occupy Wall Street, selon lui, n'a jamais été plus loin. Il n'a pas déclenché une grève, ni bloqué un centre de recrutement, ni même occupé le bureau d'un doyen d'université. Pour ses militants, la culture horizontale à laquelle il tenait représentait en quelque sorte le stade suprême de la lutte, le processus et le message, entonnait-il en chœur. Mais la question n'est pas seulement celle de l'élaboration des revendications, mais de leur traduction politique. Et sur ce plan, il estime que Occupy Wall Street a donc échoué. Alors, bon, il n'est pas entièrement critique, naturellement. Il dit que Occupy Wall Street a réalisé d'excellentes choses, qu'il a su trouver le bon slogan, les 1%, les 99%, qu'il a identifié le bon ennemi et qu'il a capté l'imagination du public. D'une certaine manière, on pourrait même ajouter que la campagne d'Obama contre Romney a beaucoup bénéficié de ce climat d'hostilité à l'oligarchie et aux riches et aux 1%. Mais ça n'était pas du tout ce que souhaitait Occupy Wall Street. Leur objectif n'était pas de favoriser la réélection de Barack Obama, qui est en ce moment en train de négocier avec les Républicains pour voir quels sont les budgets sociaux qui seront coupés dans quelques semaines. Donc là, ça, c'est le premier échec, un mouvement qui a été trop soucieux de ses modalités d'action et moins soucieux de les traduire dans la réalité, parce que d'une certaine manière, le mouvement ne voulait pas vraiment obtenir quelque chose dans la mesure où il contestait la légitimité de l'État. Donc il ne voulait pas formuler des revendications, parce que formuler des revendications aurait été admettre la légitimité de ceux qui étaient susceptibles de satisfaire ces revendications. Et le deuxième travers que Thomas Frank identifie dans le mouvement, et ça c'est quelque chose qui nous rappelle quand même des choses à gauche et à l'extrême gauche en France, c'est cette espèce de dérive universitaire, ce jargon impénétrable, où on voit beaucoup d'aspirants étudiants dont on se demande si l'objectif pour eux, c'est de remporter une victoire quelconque ou de préparer le sujet de leur prochain mémoire ou de leur prochaine thèse.
Le prochain papier pour les